Dans les pages du quotidien d'Oran, le 7 octobre dernier, le journaliste Akram Belkaïd écrit ceci. S'exprimer à propos de la guerre d'Algérie en France, c'est d'abord prendre des risques sur le plan de la politique intérieure. C'est fâcher les électeurs. C'est prendre le risque de se mettre à dos les uns ou les autres, ou même tout le monde. Rapatriés, enfants de rapatriés, harkis et leurs enfants, Français issus de l'immigration maghrébine, anciens appelés du contingent, etc., etc. J'ajoute qu'en 2022, l'élection présidentielle française va coïncider avec l'anniversaire de la fin de la guerre et celui de l'indépendance de l'Algérie. Pour l'année à venir, l'histoire n'a donc pas fini d'être ravivée dans une France où il est beaucoup question d'identité. Et cette histoire s'écrit aussi en chansons. Et ces chansons fabriquent une mémoire commune de chaque côté de la Méditerranée. La semaine dernière, Pop & Co fut une plongée dans le répertoire musical qui relie la France et l'Algérie de 1954 à 1980. Et ce matin, je vous propose la suite, la bande-son franco-algérienne de 1980 à aujourd'hui. France-Algérie, une histoire en chanson, épisode 2, comme deuxième génération. Bonjour, bienvenue, c'est Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Bonsoir, j'espère que la semaine s'est bien passée. Si vous avez des soucis, on va essayer de vous les faire oublier. Il y a des surprises dans l'émission, vous avez reconnu tout le monde ou presque.
Donc, comme vous le savez, lui c'est Michel. Drucker Michel, qui anima les samedis soirs des Français, de beaucoup de Français, avec son émission variété Champs-Élysées. Beaucoup de Français parce que c'était un temps où la télé rassemblait des millions de gens sur leur canapé. Passer à Champs-Élysées, c'était donc chanter pour une bonne partie de la France, une sorte d'adoubement et la promesse d'une notoriété. Ce matin, nous sommes donc un samedi soir, le 17 avril 1982.
Merci. On va maintenant retrouver des femmes algériennes kabyles qui portent un nom qui est d'ailleurs le nom d'une montagne de Kabylie, Djoudjoura. Les Djoudjoura nous chantent leur espoir, la liberté, leur pays, la condition féminine, leur Kabylie natale. Les Djoudjoura.
Ces jeunes femmes kabyles qui chantent en kabyle avec des robes kabyles.
C'est Naïma Uberyaï qui apporte cette précision. Elle est historienne. Vous l'avez entendue la semaine dernière pour le premier volet de France-Algérie, une histoire en chanson. Et aujourd'hui, elle nous guide pour la suite avec Djoudjoura, groupe mené par Djoura Abouda et ses sœurs.
Elles vont être les pionnières chez les filles pour chanter le patrimoine de la chanson kabyle, une identité culturelle très très forte, alors que la world music commence aussi à s'installer. Il y a une appétence pour ces musiques venues d'ailleurs, mais elles ont le storytelling, elles sont capables d'expliquer. Elles savent présenter leur démarche et elles savent l'inscrire ici et maintenant. Djoudjoura, c'est quelqu'un de très éloquent. Djoudjoura est écrivaine, elle est réalisatrice de films, c'est une intellectuelle et c'est une artiste. Et elle a les codes de la société française, ce que n'avaient pas les chanteurs de l'exil. Et en plus, ils ne pouvaient pas assumer qu'ils allaient être français, en fait. C'était pas leur combat à eux. Alors que Djoudjoura, carte de séjour, c'est des artistes de France. Ils sont déjà français, en fait.
Il suffit de ce jingle pour passer du Champs-Élysées de Drucker sur Antenne 2 au journal de 13h de Pierre Veil sur France Inter. Nous sommes le 6 novembre 1983.
Bonjour, arrivé à Paris du président algérien Chadli Benjedid, c'est le début d'une visite officielle de 3 jours. À Paris et à Alger, on insiste sur l'importance historique de ce voyage, très symbolique. Loin des rancunes, les deux pays ont la volonté de renforcer leur coopération politique et économique.
Visite historique donc, puisque c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie qu'un président de ce pays est en France pour une visite officielle.
Ce sont les Français qui vous accueillent par ma bouche.
En 1954, François Mitterrand était ministre de l'Intérieur et déclarait « L'Algérie, c'est la France ». 29 ans plus tard, 1983, il est président de la République et accueille son homologue algérien.
Nous savons ce que nous vous devons dans l'établissement de relations amicales et fécondes entre nos deux pays. Vous êtes le bienvenu, monsieur le président, et avec vous, tout votre peuple.
Cette même année 83, les enfants d'immigrés algériens commencent tout juste à entrer dans nos télés.
C'est lui, Karim Kassel, celui que vous avez choisi. Vous avez été plus de 2000 à jouer avec nous.
Ça, c'est le ton de la Starac de l'époque, un télécrochet qui, évidemment, ne s'intitulait pas Starac, ça s'appelait Moi-Je. Et dans cette émission, les téléspectateurs élisaient le chanteur du mois.
C'est peut-être grâce à vous qu'il a sa première chance. Nous avons suivi sa première séance de travail chez Pathé Marconi.
Cet horizon de tout.
Karim Kassel, donc, qui se fait connaître avec cette chanson « Banlieue ».
Son univers est lourd, passe les jours et l'ennui. Banlieue, empêche-les de vieillir, leur jeunesse se tire. Banlieue.
Vous vous sentez plutôt quoi, français ou algérien?
J'ai... Bon, bien sûr, il y a... Bon, c'est vrai, je suis algérien avant tout, hein, parce que, bon, mes parents, parce que tout le folklore, tout... Mais je suis né en 14e, j'ai bougé de là, l'algérien, je parle un tout petit peu, c'est tout, et la langue que je manie le plus, c'est le français.
Alors, banlieue, c'est vous?
Ouais, banlieue, c'est moi.
Et vol de mobilette?
C'est moi aussi. Ouais, on peut le dire, c'est moi.
Et sa chanson « Banlieue », qui est vraiment dans l'air du temps, va être un énorme succès. Et si lui, il chante en français, c'est plutôt du Brel, Brassens, guitare-voix, un peu chanson française très tradie, il va quand même raconter, lui qui est d'origine algérienne avec des parents kabyles, il va chanter dans la phase B de « Banlieue », parce qu'on est encore dans les 45 tours des années 80. Et cette phase B, c'est la chanson du kabyle.
Je n'ai rien à te donner, la langue je l'ai oubliée. Seul le sang de tes veines pourra te rappeler qu'il y a longtemps un homme est venu s'exiler. On l'appelait immigré. On l'appelait immigré.
Et il va chanter ça. Qu'est-ce que c'est d'être un enfant de l'immigration kabyle à Paris, lui il a grandi dans le 14e arrondissement. C'est ceux qu'on va appeler les beurs dans les années 80, qui vont grandir un peu comme des fleurs de béton comme ça, dans les bidonvilles, ensuite les cités de transit et enfin les grands ensembles, et qui vont interroger, y compris dans la chanson de variété, les questions identitaires de ce qu'on appelait à l'époque, à la télé, le problème immigré.
Mais au début des années 80, c'est la radio qui connaît le plus grand changement. Avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, les ondes sont libéralisées. Les stations qu'on disait pirates sont autorisées. Parmi elles, il y a Radio Beurre. On est en 1982.
Eh bien, bonsoir les auditrices.
Bonsoir les auditeurs.
Vous êtes avec Linda.
Et Hamid, bien sûr.
Sur Radio Beurre.
En 107 MHz.
La première idée, c'est de nous regrouper par rapport aux radios migrées, mais nous, on se situe dans le champ social et culturel français, on refuse donc ce ghetto, même si on a un lien avec l'immigration dans le sens qu'on représente malgré tout l'immigration familiale, mais on présente aussi une expression propre, c'est-à-dire en tant qu'enfant immigré ayant les deux cultures, on préfère se situer dans ce champ-là, dans le sens que c'est notre pratique de tous les jours.
Radio Beurre ou Radio Soleil joue un rôle dans la diffusion des musiques qui émergent en ce début des années 80. Ces musiques refusent de choisir entre la France et l'Algérie, tandis que par ailleurs l'allégeance est exigée à l'un ou l'autre pays. Une chanson, ça permet au contraire de concilier concrètement les deux, en mariant le rock'n'roll et le français, plus l'arabe et les sons d'Algérie. Parmi les premiers à le faire, il y a eux, un groupe de Lyon. Ils s'appellent Carte de Séjour et le chanteur, c'est ce garçon, Rachita. Il se disait français tous les jours et algérien pour toujours, d'où cette bande-son.
C'est Majid, vous pouvez me laisser un message et je vous promets de rester cool.
Majid Cherfi fait son entrée dans Pop & Co. Majid Cherfi, auteur et l'un des interprètes du groupe Zebda. Majid Cherfi, écrivain, dont le dernier récit s'intitule « La part du Sarrasin ».
Bon, alors, Carte de Séjour, pour moi, c'était une révélation. Et une révolution. C'était génial parce qu'il y avait un parfum oriental dans une dynamique rock. Moi, sans Carte de Séjour, j'avais pas imaginé qu'on puisse être un arabe et appartenir à un groupe de rock. Je vais les voir, je vois ce Rachida sur scène, et je me dis, mais c'est pas possible. Le mec, il chante en arabe, alors que moi, j'essayais de glisser dans mes phrases des subjonctifs de l'imparfait pour montrer aux Français que nous étions d'une intégration parfaite. Le mec, il s'assumait en chantant l'arabe, et je me suis dit, mais oui, c'est pas parce qu'on chante en arabe qu'on est moins français. Une vérité biblique pour moi, Carte de Séjour. Parce qu'être français, c'est pas parler français, c'est se sentir français. Et ce Rachida, il s'est senti tellement français qu'il s'est mis à chanter en arabe.
Le 23 février 1983, à 19h45 sur Antenne 2, il y a le Petit Théâtre de Bouvard. Et parmi les comédiens, il y a Smaïn. Il interprète un balayeur qui s'appelle Monsieur Ali. Ali comment ? Je cite... Ali la France. Smaïn, né à Constantine et arrivé en France à l'âge de 2 ans, présente son premier one-man show, A Star Is Born. On est en 86.
Eh oui, enfin un beurre président, hein ? Cher Francis, chère Françoise, vous m'avez élu au chauffage universel. Je tiens à vous dire merci. Votre choix me va droit au cœur. Et sachez que je serai le président de toutes les Françaises et de toutes les Françoises. Vous m'avez sollicité à la tête de notre pays. Je vous garantirai donc le bon fonctionnement de nos institutions. Et je serai le gardien de vos libertés. Et si ça ne suffit pas, je vous laisserai les doubles des clés, quand ça croit, hein.
Pour vous, ces années 80, c'était quoi, Majid Cherfi?
C'était nos 20 ans et l'impression d'incarner des nouveaux héros. Nous allions nous bâtir la nouvelle France. On était, voilà, plein de fougue. Et alors, en plus, c'était aussi l'émergence du Front National. Et donc, il y avait une excitation d'aller au combat et en même temps de représenter presque l'espoir d'une France nouvelle.
Donc, vous aviez vraiment l'ambition, avec le groupe Zebda, avec vos textes et avec la musique, d'être des porte-parole?
Complètement. On se disait, bon, si on doit faire un groupe de musique, il doit être porte-parole de la jeunesse issue de l'immigration. On doit, avec la gauche, écrire un nouveau récit, écrire donc des chansons qui ne seront que ça. On recevait des injonctions à porter la parole de la jeunesse immigrée. Et d'ailleurs, je n'écrivais pas ce que je voulais. Je recevais des injonctions politiques. Il faut une chanson sur la double peine. Il faut une chanson sur telle ou telle discrimination. Et donc, j'étais comme un soldat militant et on était aux ordres de la cause. Voilà. Et donc tout ça avançait avec à la fois un combat contre les discriminations, un combat contre la lutte des classes, puisque tout ça portait très à gauche, et les luttes féministes qui allaient de pair avec la lutte des immigrés. Et donc il y avait un bouillonnement en fait, un bouillonnement intellectuel, et nous étions la part artistique. Et nous devions donc militer, nous, mais en chanson, les autres étant aptes aux manifestations ou autres écrits plus sérieux.
Spéciale dédicace aux Français, pas de l'Hexagone. Spéciale dédicace, on est d'accord.
On est d'accord.
Spéciale dédicace à toutes les autres personnes. Spéciale dédicace à Roubadon.
À Roubadon. Spéciale dédicace. Spéciale dédicace.
La France, titre d'un morceau issu du premier album de Zebda paru en 1992.
Spéciale dédicace à qui sont ici ce soir. Spéciale dédicace à tous les ragamandés. Spéciale dédicace à ceux qui ont la fine voix. Spéciale dédicace à qui pensent. Spéciale dédicace à les blondinés. Spéciale dédicace à vous monsieur, à vous madame. Je suis un règne, et pour les coutumes, qu'est-ce que tu fais? J'ai tout enquillé, je suis bien intégré. Nationalité, depuis 4 années, je suis français. Et dans ton quartier, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des policiers, il y a des chambres, allez, je peux les narguer. Oh, les outils, car tu dis, tu t'es montré, montré. Jaune, blanc, cassé. Moi, je t'en suis ici, mais j'ai des choses à dire. Ceux qui sont pas d'ici, et au sous le profond. Et si t'écoutes pas ici, les discours de castagne, du cochon de Bretagne. C'est normal, et
cette chanson prolonge l'esprit d'une manif aujourd'hui quasi oubliée. Le 12 mars 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme arrive à Paris. Et ce jour-là, on en parle dans le journal de FR3.
Paris, 3 décembre. 100 000 personnes entre la Bastille et Montparnasse. Les partis de gauche et d'extrême gauche sont venus parcourir les derniers kilomètres. Les syndicats, les organisations humanitaires, les associations de rapatriés, les institutions juives, catholiques, musulmanes sont également représentées. Seule l'extrême droite boycotte, elle ne veut pas s'associer à, je cite, une poignée de voyous. 100 000 personnes cet après-midi à Paris, le premier jour à Marseille, ils étaient 32 très précisément.
Les années 80, c'est la marche pour l'égalité et contre le racisme ? Qu'est-ce que ça représentait, ouais, cette marche ? Réponse de Magid Cherfi.
Eh bien, c'était un truc un peu fou, parce que tout à coup, on prenait conscience qu'il y avait une génération qui était scolarisée et qui analysait la situation de manière politique. On est dans un état de droit, et pourtant, nous, fils d'immigrés maghrébins, ces droits nous sont refusés, et donc, alertons. Et la marche de l'égalité est née de ça. Et que nous définissons en français, en tant que français, c'est en français qu'on vient interpeller la République.
Cette marche, vous avez commencé en disant, c'était un peu fou. Pourquoi c'était fou ?
Eh bien parce qu'on a cru. Alors, elle correspondait avec l'arrivée de la gauche au pouvoir. Une espèce de révolution allait se mettre en place. Dans le genre, on va inscrire dans le récit français l'idée cosmopolite. La France, c'est aussi des gens de couleur, qu'on pouvait être français en fonction de valeurs auxquelles on adhère. Et alors on y a cru. C'est pour ça que c'était un sentiment de révolution. On s'est dit là, avec la gauche, on va établir un État non raciste. Mais ce n'était qu'un jeu de dupe, qu'un jeu électoral, parce que ça a été une grande manipulation du Parti Socialiste, qui a voulu se parer de l'habit universel, universaliste, et au fil des années, on voyait que la place ne nous était pas faite, et que cette fameuse gauche au pouvoir, c'était, on est d'accord avec cette idée, mais n'en faites pas trop. Et c'était tout le temps cette espèce de « n'allons pas trop loin » permanent qui a fait la désillusion, la rancœur, et voire le passage à droite. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup moins de jeunes issus de l'immigration qui portent à gauche. Et l'abstention, ça va de soi. Bref, il y a eu une longue et lente désillusion. Et les jeunes aujourd'hui de 20 ans nous regardent à nous comme les grands frères en disant « la gauche vous a baisé ». Voilà ce qu'on a retenu de l'espoir de la marche pour l'égalité.
Et au milieu des années 80, place au marché. La figure du beurre devient tendance et les maisons de disques misent dessus. En 1987, le label Carrère repère Rachid Ferrache,
le môme qui a joué aux côtés de Bébel dans L'As des As. On lui met un texte dans les pattes et on le propulse sur le plateau de... Bon bref, Champs-Élysées, Michel Drucker. Rachid Ferrache y interprète la chanson Petit Beurre. C'est censé dénoncer les stéréotypes racistes de l'arabe dangereux. En 1983, le Front National avait remporté ses premiers succès aux élections municipales.
Voudrais bien m'appeler Jonathan, que mon nom sonne comme un mot d'oiseau. Si dans mon cœur les fleurs se fanent, c'est parce que le bon Dieu a tout faux.
Élection législative de 1986. Le Front National de Jean-Marie Le Pen propose des listes sous le nom de Rassemblement National dans trois départements. L'application du mode de scrutin à la proportionnelle, décidée par le président Mitterrand pour affaiblir la droite, la proportionnelle donc, permet au FN d'entrer à l'Assemblée nationale pour la première fois. Et dans le même temps... Dans le JT de FR3 le 26 janvier 86.
C'est rock, c'est blues, mais c'est aussi arabe. Bref, c'est de la musique raille à découvrir à Bobigny.
Ce jour-là, 23 janvier 1986, le raille vit sa première apparition publique en France avec un plateau d'artistes réunis autour de la grande Chirag Rimiti. Michel Lévy, co-organisateur de ce festival de Bobigny, raconte que la diaspora algérienne a retrouvé une part de sa culture ce soir-là. De l'autre côté de la Méditerranée, le raï a été interdit jusqu'à l'été 1985. Il était devenu la bande-son d'une jeunesse qui étouffait dans l'Algérie du FLN. La suite, c'est l'historienne Naïma Hubert-Yahi qui vous la raconte.
Raï, c'est l'opinion. C'est, je suis mon instinct, je n'en fais qu'à ma tête. Et cette tradition qui est d'abord une tradition bédouine, donc rurale, elle va être un peu l'exutoire des frustrations de la jeunesse algérienne, qui vit dans un carcan un peu puritain et qui va trouver dans cette musique une liberté de ton qui va plaire à l'Occident. Qui va conquérir les enfants d'immigrés grâce au festival de raï de Bobigny et les cassettes de Barbès, parce qu'on va passer du support vinyle au support cassette et les fameux Walkman Sony des années 80. Et les enfants d'immigrés, ils vont se réconcilier avec la chanson arabe de là-bas, grâce au raï qui va emprunter les riffs de guitare au rock. Et ce raï roots va s'électriser, être marqué par des sonorités anglo-saxonnes et va devenir audible pour un public occidental.
Parmi les pionniers du raï électrique, il y a le groupe Raïna Raï, composé de quatre musiciens qui viennent de Sidi Bel Abbès. Raïna Raï pose les jalons du raï moderne depuis Paris avec un premier album publié en 1982. À la fin des années 80, le raï est donc sur la voie du succès en France et dans le monde. Ce sera avec le morceau Didi de Cheb Khaled. J'ai dit à Naïma Hubert-Yahi, là on est en 1991. Mais non en fait, c'était l'année d'après. Et parfois une année dans l'histoire de la musique, ça compte. Didi, c'est 92 donc. Parce qu'entre-temps...
Il y a la guerre du Golfe qui va passer par là, il y a un blackout sur les cultures arabes en France. Et ensuite, il y a la bombe Didi de Khaled, qui va être pris en charge par un certain nombre de producteurs anglo-saxons et français, et qui va professionnaliser son raï. Cette production professionnelle va accompagner une musique qui va conquérir le monde entier. Elle va la conquérir depuis Paris. C'est parce que Paris est une capitale des musiques du monde que le Rai peut rencontrer son public à l'international. Et c'est un peu un espèce de goulot d'étranglement où jusqu'à aujourd'hui, dès que vous chantez en arabe, on dit vous faites du Rai. Quelle que soit la région, le genre.
C'est-à-dire que ça a eu tellement de succès que ça a tout phagocyté.
Ça a tout phagocyté et ça a rétréci la focale sur une esthétique qui est presque en France synonyme de musique arabe. C'est-à-dire que le label Rai, depuis la France, c'est tout ce qui est arabe. Alors vous pouvez venir de Tunisie, d'Algérie, peu importe, faites du Rai.
Algérie, une histoire en chanson, 1980-2021, c'est Pop & Co.
Oui.
Majid Cherfi, auteur et l'un des interprètes du groupe Zebda. Zebda, ça veut dire beurre en arabe, celui qu'on étale sur les tartines. Dans un récit intitulé « La part du sarrasin », Majid Cherfi raconte le parcours et l'ascension de Zebda jusqu'au concert avec des salles pleines. Extrait. Dans cette foule bienheureuse, je ne voyais pas un rebeu de quartier, pas le moindre fils de la cité qui m'eût définitivement consolé.
Ça a été la grande leçon, si vous voulez, parce qu'on oublie que lorsque vous avez affaire à des populations en difficulté, à des populations exclues, le message en soi ne passe pas parce que on n'a pas les mêmes codes. Dans Zebda, on revendiquait la laïcité, on revendiquait des valeurs républicaines, des combats féministes, et du fait du discours, on était inentendable par une population exclue. Et tout ce qui allait bien à une jeunesse de gauche, désireuse de mixité, n'allait pas du tout pour des quartiers où n'était entendable que le nique ta mère ou le coup de poing.
C'est pour ça que vous écrivez que le public qui vient à vos concerts, c'est un public, je cite, de blanc.
Ouais.
C'est pas les enfants d'immigrés dont vous êtes.
Absolument. Et quand je dis un public de blanc, en fait, parce que nous-mêmes, nous l'étions blanc. Mais quand je dis blanc, c'est pas tant la couleur de la peau, si vous voulez, qu'une forme de privilège dans la vie. Et réussir, c'est finalement s'intégrer, pour utiliser un mot que les gens n'aiment pas. On s'intègre dans les valeurs de laïcité, de mixité. Et pour ceux qui sont exclus, vous devenez l'ennemi, quoi. Tu adhères à ces valeurs auxquelles ils n'ont pas accès, finalement. Puisqu'on est exclu de ce système-là, autant le combattre. Et donc, dans Zebda, nous étions des blancs. Et c'est en fait ce privilège d'avoir accès au code qui a fait que, finalement, on avait notre place avec les blancs, entre guillemets, et on avait de moins en moins avec les jeunes des quartiers. De toute façon, on trahit toujours. Quand on vient d'un milieu défavorisé, c'est pas vrai qu'on s'en sort, et c'est pas vrai que les gens vous encouragent ou vous félicitent ou vous admirent. Dans les milieux défavorisés, vous ne pouvez que trahir. Il n'y a pas d'autre issue. Celui qui s'en sort trahit.
Une fois cette interview terminée, Majid Chirfi me raconte que dans l'émission « Touche pas à mon poste » de Cyril Hanouna le 8 octobre dernier, le rappeur Anis, fils de Raled, s'est dit prêt à voter Éric Zemmour à la prochaine présidentielle. Aujourd'hui, le Rassemblement National est le premier parti chez les 25-34 ans. En 1997, à l'initiative du groupe Zebda, le collectif Motivé publie un album. Il s'ouvre avec ce titre qui revisite le chant des partisans.
Amis, entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu les cris sourds du pays qu'on enchaîne?
Symboliquement, c'est un album déjà qui s'appelle Chant de lutte. Et symboliquement, ça inscrit l'héritage de ces artistes dans les luttes sociales françaises. C'est dire, nous aussi, enfants d'immigrés, on est héritiers de ce patrimoine des luttes de France, notamment de la résistance. Et ils deviennent, à leur tour, membres de notre roman national, notre récit collectif.
Et ça raconte aussi que leur grand-père a lutté aussi contre la barbarie.
Ça revendique effectivement la mémoire combattante des soldats coloniaux, puisque les artistes de ce groupe, mais plus largement les enfants d'immigrés, ont tous, comme tous les Français, puisque l'Algérie était française, des aïeux qui ont fait la Première et la Seconde Guerre mondiale, voire, dans le cas qui nous préoccupe, leur père a même fait l'Indochine. Donc on est dans une tradition d'une mémoire combattante des soldats coloniaux qui, j'allais dire, réintroduisent la silhouette de leurs aïeux dans notre mémoire collective, parce qu'on a trop voulu, effectivement, invisibiliser ou effacer de la mémoire collective leurs parents et leur mémoire intrafamiliale. Et ces chants de lutte nous sont transmis par ces enfants d'immigrés qui eux-mêmes sont des fils d'ouvriers. C'est cette double entrée qu'il faut retenir dans cette initiative, c'est que c'est d'abord des fils d'ouvriers et aussi des fils d'immigrés. Et ils marient cette mémoire plurielle au sein de cet album de reprise qui est un album de patrimoine.
Et je crois que le président de la République s'apprête à prendre la parole.
Nous allons l'écouter.
Garden Party,
bien.
À l'Élysée.
Une seconde.
14 juillet 1998.
L'équipe de France.
Souvenez-vous, on avait remporté une victoire historique cette année-là.
L'équipe de France et la Coupe de France. La Coupe du Monde, pardon. La Coupe du Monde. Ils sont la plus belle image que vous garderez de la France de cette année dans votre cœur. Zinedine Zidane,
le héros de la finale.
Naïma Uberyahi, historienne.
Et on croit à cette France black, blanc, beurre, parce qu'on est vraiment dans cette séquence-là. Hein. Faut se souvenir qu'on croit à une intégration réussie et multiculturelle. Quand vous regardez le clip « Tomber la chemise », qui est le dernier succès de l'été 99, « Tomber la chemise », qu'une chanson française, limite franchouillarde, qu'on a tous chanté à gorge déployée et sur laquelle on a tous dansé, « Tomber la chemise », le clip, c'est Jamel Debbouze, Omar Sy, Fred Testo, c'est les années Canal+, diversité, et ça nous dit quelque chose de l'époque. C'est là que nous allons vraiment consacrer cette France multiculturelle.
Cette année-là, le concert gravé sur disque « En deux, trois soleils » mené par Chebraled, Faudel et Rachita se vend à 2,5 millions d'exemplaires. Et l'année d'après, 1999, si vous suivez...
Hey, « Hé, tonton, les cabas, ils sont trop lourds !»
Le groupe 113, venu de Vitry, remporte deux victoires de la musique, dont celle de la révélation de l'année. Et leur tube s'intitule « Tonton du Bled », morceau qui raconte le départ et les vacances au Bled.
Tonton du Bled, c'est un peu la Madeleine de Proust des enfants d'immigrés. C'est-à-dire, c'est un folklore, un patrimoine que seuls connaissent les enfants d'immigrés maghrébins, particulièrement algériens, parce que la chanson dépeint le départ au Bled en Algérie. Mais les enfants d'immigrés marocains qui se sont tapés la route par l'Espagne ou les Tunisiens, ils ont ressenti la même émotion en écoutant la chanson. Et c'est un succès qui va dépasser les enfants d'immigrés. Et c'est aussi la fin d'une époque, parce que les vacances au Bled, c'est la chanson du cygne. Il y a déjà une forme de nostalgie dans sa chanson, parce qu'il y a eu la décennie noire qui a rendu difficile, voire impossible, le retour des vacances entre 90 et 2000. On peut dire que ça, au moment où sort la chanson, c'est la fin de la guerre civile quasiment en Algérie. Ça fait 10 ans qu'on ne va plus en Algérie en vacances l'été. Et ça renvoie du coup aux années 70 et 80. Et quand Rimka chante la nostalgie des vacances au Bled, c'est parce que ça n'est plus. On ne va plus galérer avec ses parents parce que maintenant on a de l'argent, on est un adulte, on prend l'avion, on met 2 heures à y aller, on arrête de ramener des savonnettes parce que la société de consommation existe en Algérie et que c'est fini tout ça. Et parce que c'est fini, ben on le chante avec une pointe de nostalgie, puis on en fait un voyage épique. C'est pas Ulysse, mais presque, quoi. C'est une espèce de... Il y a une universalité dans ces vacances au Bled, avec ces tontons du Bled.
Pour la bande-son de Tontons du Bled, Rimka, l'un des rappeurs du trio 113 et l'auteur du texte, apporte un disque que ses parents écoutaient. Ça s'intitule « Chants et musique d'Algérie » et il y a ce morceau d'Ahmad Wabi. DJ Mehdi, producteur du disque, va se servir de ses cordes pour Tontons du Bled. 113 connaît le succès, avec un morceau qui s'inspire autant du hip-hop d'Amérique du Nord que de l'Algérie.
Hé, hey, tonton, les cabas, ils sont trop lourds.
Allez, montez dans la voiture, j'ai
ouais, monte, Bill,
monte, monte, Bill, elle monte. Hé, hey, Atmen. Allez, monte, monte. Allez, on y va, on y va. Hé. Hey. Hé, hey, mes Karim, mm-hmm. Tonton du blé.
Tonton du blé.
Pour tous les Miss Mourt. Le du blédi.
Bledi.
504 breaks chargés, allez, montez les neveux. Juste un instant que je mette sur le toit la grosse malle bleue. Nombreux comme une équipe de foot, voiture à ras du sol. On est les derniers locataires qui décollent. Le plein de gasoil et de gazous pour pas flancher. Bilal, va pisser, le temps que je fasse mon petit marché. Direction le port, toujours le pied sur le plancher. Jusqu'à Marseille avec la voiture un peu penchée. Plus 24 heures de bateau, je sais c'est pas un cadeau. Mais qu'est-ce que je vais kiffer sur la place Vido? À Béjaïa City, du haut de ma montagne. Avant de rentrer feu d'art, je fais un petit détour par Warlan. Vu qu'à Paris j'ai dévalisé tout à ti, je vais rassasier tout le village, même les plus petits. Du tissu et des bijoux pour les jeunes mariés, et des jouets en pagaille pour les nouveau-nés. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je suis sur la plage à Boulemat avec mon zinc et son derbouka dans la main. Un verre de Selecto, imitation coca. Une couche de Zizitoun sur le corps et sur les bras. Avec mon poste sur un fond de Zahouania. On parle de tout et de rien, des Nike Air au Visa, de la traversée du désert au couscous de Yema. Et mon cousin me dit,
Karim, kiff le zetla.
Il était tellement bon que j'ai jeté mon cirage en rat. Avec deux trois blédards, on tape la discussion. Mahmoud peut pas s'empêcher de dire que je suis dans la chanson. L'un d'eux me dit,
moi je t'ai pas vu cette télévision.
Et l'autre me demande,
ça t'arrache Michael Jackson.
Il parle trop vite et en argot de blédard. Je sais ce qu'il ferait pour une poignée de dinars, connard. Le soleil se couche et tout le monde rentre chez soi. C'est l'heure du repas et du latte. Pour d'autres, la chicha. J'ai passé un bon mois dans ce qu'on appelle le tiers-monde. Et si j'avais assez d'oseille, j'emmènerais tout le monde. Mais je peux pas fermer les yeux sur ce qui se passe vraiment. Que 10 morceaux ont disparu aux enfants et aux mamans. Et je suis rentré à la cité,
Arbeya.
Content de revoir mes potos
et ma chebba.
Pendant deux semaines j'ai mangé
que de la charba.
J'irai finir mes jours là-bas, Inch'Allah. Je vais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas. Je voulais rester à la cité, mon père m'a dit. Dans ce cas-là, je ramène tous mes amis. Alors dans une semaine, je rentre à Vitry. J'irai finir mes jours là-bas.
S'il te plaît, vas-y, laisse-moi ramener mon scooter.
Bon, dans ce cas-là, je ramène mon 3 quarts alors. Bon, alors je prends tous mes CD, toutes mes cassettes. Bon, je prends rien alors. Bon, je me fais la boule au moins avant de partir. Je ramène la PlayStation. Bon, la télé du salon au moins. Je crois que je vais aller là-bas pour me marier ou quoi?
Cette décennie des années 1990, ce sont les années noires en Algérie. Parmi les victimes de la guerre civile, figurent des intellectuels et des artistes. Journal de 20h sur France 2. Bruno Mazur apparaît à l'écran. Nous sommes le 29 septembre 1994.
En Algérie, alors que l'on est toujours sans nouvelles du chanteur kabyle Lounès Matoub, c'est un autre artiste qui a été victime aujourd'hui de la violence terroriste. Cheb Hasni a été abattu à Oran à 26 ans. Il était considéré comme l'étoile montante du raï, une musique qui révulse littéralement les intégristes. Commentaire Véronique Tavo.
Cheb Hasni a été tué devant chez lui à Oran de 2 balles dans la tête. Il avait 26 ans. Le nom de Cheb Hasni vient ce soir s'ajouter à la liste déjà très longue des intellectuels, des artistes assassinés en Algérie. L'une de ses toutes dernières chansons parlait d'espoir.
Parce qu'il faisait pas bon d'être un artiste durant cette guerre civile en Algérie. Et ils ont trouvé refuge en France après ou pendant la décennie noire. On a eu une nouvelle scène. Une nouvelle scène qui s'est installée à la fin des années 90 et qui ont donné les Souad Massi, les Gnawa Diffusion. Et c'est cette nouvelle scène de l'époque qui va aujourd'hui perpétuer la chanson de tradition algérienne en France.
À la fin des années 90, donc, le groupe Gnawa Diffusion, mené par Amazir Kateb, fils de l'Algérien exilé Kateb Yassine, publie un album qui s'intitule Algeria. Et il y a ce titre, Ombrelle.
Oh, je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. J'aimerais être un parfum juste pour me faire sentir et sur votre corps m'évanouir comme une goutte. J'aimerais être un penny et caresser vos mèches. Être dans une main fraîche, dans la moiteur me baigne. Oh, mais je voudrais être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dame. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil. Oh, mais le pire c'est d'être un fauteuil dans un salon de coiffure pour dames seulement. Pour que les fesses des belles âmes s'écrasent contre mon orgueil.
Vous écoutez France Inter, il est 13h, passé de 15 secondes, le journal Philippe Habitboul.
Nous sommes le 7 octobre 2001.
Bonjour. Mauvaise soirée pour le football. Hier soir au Stade de France, le match France-Algérie a été interrompu à un quart d'heure de la fin. Des jeunes supporters ayant envahi la pelouse, les Bleus menaient alors 4-1. Il n'y a pas eu de violence, mais cet envahissement pacifique laissera des traces, un goût amer dans les esprits des joueurs, dans les rangs des supporters, dans le monde du football et aussi peut-être dans les deux communautés françaises et algériennes.
France Inter. La fable de la France black-blanc-beurre de 1998 explose donc au début des années 2000. Et ce match de foot impossible entre la France et l'Algérie n'en est que l'un des symptômes, avec ces Français, enfants d'immigrés algériens, qui envahissent le terrain pour refuser l'humiliation de l'Algérie par l'équipe de France. Mais qui est français et qui ne l'est pas ? La question n'est pas résolue dans l'imaginaire collectif. En ce début des années 2000, un groupe de rap prend l'histoire post-coloniale en charge. Il s'appelle La Rumeur. Et il rappelle la mémoire de la guerre dans un morceau qui s'intitule « Premier matin de novembre ». On est en 2002, 40 ans après l'indépendance de l'Algérie.
Voulu d'un million d'âmes, laminé par les flammes, subjugue le silence et parle d'une seule voix. N'oubliez pas, c'est mort sans sépulture, sans gerbe ni dorure. C'est mort aux yeux ouverts dans les chambres de torture. Faut-il que leur gloire soit insultée? Faut-il qu'elle soit dilapidée par de mauvais bergers qui ont accordé leur violon au diapason du colon et partagent avec lui la même peur au ventre que partout refleurissent des premiers matins de novembre?
Aujourd'hui, l'Algérie, comme espace dans la chanson francophone, ça n'existe plus. Alors qu'on sent bien que c'est une mémoire à vif, ça n'existe plus du tout dans la chanson.
Ça existe différemment. C'est-à-dire que ce n'est plus la géographie algérienne, l'espace physique de l'Algérie qui est convoqué dans la chanson. C'est une empreinte linguistique dans la chanson de variété, la chanson populaire. Quand vous prenez des artistes comme Huss l'Enfoiré, un mot sur trois, c'est un mot en arabe. Pourtant, il est français. Je veux dire, et son public, il est français. Ça irrigue. Par exemple, Bélek, fais attention, fais Bélek. C'est de l'arabe, fais attention. Et c'est la hesse, c'est la misère. Ça, c'est des mots-clés dans le rap français aujourd'hui. Ils sont nombreux. Ça va être une trace de cette immigration dans, on va dire, le langage parlé populaire.
Un dernier mélange pour terminer, avec lui qui est anglais par sa mère et italien par son père et qui vit en France. Voici Pierce Faccini. Son nouvel album mêle blues et trance de la musique gnawa.
This house of ours, a ball and chain. This house of ours, where no one reigns. Forget my name and our abode. Abandoned ship.
Unbreakable. Fly, fly, go.
Naïma Uberiaï, que vous avez entendue au cours de ce récit, est la directrice adjointe du festival Ville des musiques du monde. Ça se passe en Seine-Saint-Denis et à Paris jusqu'au 14 novembre. La part du Sarrasin, c'est le titre du récit signé Magid Cherfi, cette épopée du groupe Zebda, dans la France des années 80 et 90, apparue aux éditions Actes Sud. Et je vous signale aussi le livre Quand la ville s'éteint, premier roman de Julia Piala, où elle fait le portrait du quartier Strasbourg-Saint-Denis avec le rap, le rail et l'électro pour bande-son. Koyan Guyen réalise Pop & Co chaque semaine avec Thomas Langlin ce matin. Ilinka Negulesco trouve les archives sonores, les invités et la documentation. JB Audibert assure la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co, c'est une réécoute avec un Pop & Abba et une entrée dans les coulisses d'une chanson de Feu Chatterton. Suivront Bernard Lavillier, Dépêche Mode, plus le nouvel album d'Hubert Félix Thiéphen. À samedi. Thank you.